Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce premier jour de la décennie 2020. Je vous souhaite le meilleur des mondes en ce 1er janvier et pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose de nous plonger dans les méandres du cerveau heureux d'André Manoukian que vous avez pu entendre hier soir en concert sur France Inter. André Manoukian, le genre de type qu'il est impossible de détester, qui attire immédiatement la sympathie, le genre de bonhomme qui fait l'unanimité quand vous prononcez son nom, le genre de mec qu'on aimerait avoir comme ami pour un soir ou pour la vie. Bref, c'est très agaçant, mais ça dure 2 secondes et demie, car il suffit d'une œillade. Il suffit d'une œillade où perce l'amour de la montagne, de Spinoza, des femmes et du blues, pour qu'immédiatement l'envie de partager avec lui un verre et des idées l'emporte sur l'envie, cette algue toxique qui détient le pouvoir de rendre malheureux. Pour percer les secrets du bonheur selon André Manoukian, 3 camarades, les journalistes Christy Lapelle-Edouel, Guillemette Audicino et l'honorable professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Vous pouvez réagir ce matin sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour André Manoukian.
Bonjour Ali.
Vous êtes né en 1957 à Lyon, la même année qu'Ethan Cohen, que Daniel Day-Lewis, que Mimi Mati et Pierre Moscovici. Vous êtes auteur-compositeur, pianiste de jazz, philosophe amateur, comédien, chroniqueur, arrangeur, animateur de télévision. Et quoi d'autre ?
Juste musicien en fait. Mais c'est la musique qui guide toutes ces choses-là. Je parle un peu de musique dans les médias et finalement Debussy faisait pareil, il s'appelait Monsieur Croche et il signait des chroniques musicales et ça fait du bien parce qu'on entend des choses qu'on n'écouterait pas forcément.
Comment expliquez-vous la sympathie que vous provoquez ? Il est sans doute impossible d'expliquer ce je ne sais quoi théorisé par Jankélévitch.
Ah waouh.
Ça commence bien.
Premier janvier. Janké, my man.
Faut y aller mollo, c'était le 31 hier soir quand même.
C'est lui qui a le mieux parlé de la musique et qui a mis des mots sur mes émotions, notamment avec son duo sur les muses qui se transformaient en sirènes. Mais vous parliez de la sympathie. En fait, je suis un empathicaliste. Vous savez, il y avait un film qui s'appelait, je sais plus comment, avec Audrey Hepburn, avec un philosophe bidon. Il voulait pas dire les existentialistes et Jean-Paul Sartre. Donc le gars, il disait qu'il était empathicaliste. Et là, j'ai dit, putain, c'est moi. Voilà, je suis en face de quelqu'un, je me mets à transpirer comme lui ou à rire comme lui ou à avoir les mêmes émotions. Je suis perméable à tout.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie et chroniqueur dans l'émission. Un point bac philo sur le je ne sais quoi de Jankélévitch.
C'est férié,
en quelques mots.
C'est férié aujourd'hui. Non, en quelques mots c'est compliqué parce que Jankélévitch en a fait 3 tomes. Hein, donc voilà, le je ne sais quoi donne presque rien. En fait, je ne sais quoi, il y a plusieurs manières de le dire. D'abord, c'est d'abord ce qui résiste à tout ce qu'on peut rationaliser ou conceptualiser, c'est ce qui reste et que donc la philosophie essaye de penser malgré tout, c'est ce qui reste et c'est précisément le je ne sais quoi est en ça très explicite, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas savoir et qui pourtant en fait a de l'influence sur nos vies. Et donc Jankélévitch essaye de tourner autour, de travailler avec à le décrire, mais au fond on ne peut jamais le décrire. Et simplement, pourquoi du coup c'est intéressant d'y réfléchir ? Bah parce que ça nous conduit à y être plus attentifs dans nos vies. Il faut pas dire le je ne sais quoi, ça va être ça. Il parle par exemple du moment où l'oiseau juste décide de voler ou de nos propres décisions à nous. On peut pas rationaliser nos décisions comme à faire une sorte de chaîne de causes et d'effets pour avoir la compréhension la plus efficace possible de ce qui s'est passé. Mais on peut, si on est sensible à cette présence du je ne sais quoi, et presque rien dans nos vies, eh bien on peut tout simplement le laisser exister davantage et comprendre que nos existences, c'est pas un ensemble de causes et de raisons, mais c'est en fait des mouvements permanents, des émotions, de l'empathie, des tout d'un coup une envie un peu compulsive ou au contraire une sorte de longue langueur, voilà, du matin ou de l'après-midi.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama.
Bonne année.
Ouais, chroniqueuse dans Grand Main Vous Fasse. Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique Livre à Psychologie Magazine. Comment expliquez-vous qu'André Manoukian attire autant de sympathie, quelque soit le genre, le sexe, la classe sociale. Il ne s'agit pas d'une sympathie sucrée, mièvre, mais d'autre chose, Guillemette Odissino.
Oui, alors d'abord, je voudrais mettre un titre sur le film dont il vient de parler avec Audrey Hepburn. Ça s'appelle Drôle de frimousse.
Merci.
De Stanley Donen. On est le 1er janvier, vous avez tous mal aux cheveux. Je pense que vous pouvez regarder ce film tranquillement. Ça va vous faire un bien fou. Audrey est belle. Et Fred Astaire est plein de charme. Et peut-être, en fait, c'est ça, la notion absolue du charme. C'est-à-dire cette chose qu'on a envie de partager. Il y a des gens comme ça qui sont lumineux. Et dont on devine qu'au-delà du charme et de la séduction, il y a une vraie gentillesse. C'est tellement bon, les gens dont le charme repose justement sur la bonté. Et je pense qu'en fait, c'est ça le secret d'André Manoukian. Il est charmant et bon à la fois.
Alors si André Manoukian provoque chez vous des aigreurs d'estomac, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Christina Pellé-Noël.
Mais je pense que le mot a été prononcé par l'invité d'honneur. C'est l'empathie. Hein, je pense que c'est ça. L'empathie provoque immédiatement la sympathie. Par un effet de va-et-vient. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous regarde avec intérêt, qui vous écoute et qui vous sourit, ça ne peut que provoquer un mouvement généreux de la part de l'interlocuteur.
Voilà, André Manoukian, c'est assez simple. Quand on attire à ce point la sympathie, comment décidez-vous de cultiver une amitié au long cours ?
Ah, il faut du temps. Alors ça, c'est ce que je n'ai pas trop, mais j'ai quelques amis au long cours. Tout d'un coup, c'est des rencontres qui sont fulgurantes. En deux secondes, ça se voit que ce pote, il va vous accompagner pendant très longtemps, parce que tout d'un coup, il y a une affinité qui se passe, hein, parce que c'était toi, parce que c'était moi.
Un je ne sais quoi.
Mais pour revenir sur l'empathie, je dirais que j'ai peut-être aussi ça dans les gènes, et là je vais être moins drôle. Je dirais que c'est un peu la condition de survie de gens qui ont vécu pendant longtemps dans un milieu hostile. Mes ancêtres arméniens ayant vécu dans un milieu qui n'était pas toujours très sympathique, on est obligé d'anticiper. Moi je dis souvent que c'est ma grand-mère qui a inventé la PNL, vous savez, la programmation neurolinguistique, histoire de se faire comprendre par l'autre, parce que se faire comprendre par l'autre, c'est une question de survie. Voilà. Donc, elle a chopé le commandant turc du convoi pendant sa déportation, pendant le génocide arménien, on est en 1915. Et elle voyait que ce monsieur était très pieux, il faisait sa prière 5 fois par jour, chose qui n'était pas évidente à cette époque chez les Turcs. Donc elle a été le voir, elle lui a dit « Au nom de ta religion, de ta foi, comment peux-tu laisser faire ces massacres ?» Et du coup, comme elle l'a touché dans son langage, lui, il a dit « Bah écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. » C'est peut-être grâce à elle, évidemment, que je suis là. Parfois, je me dis « Moi, j'en ai marre d'être gentil comme un Arménien, j'aimerais bien être un peu turc de temps en temps. » Mais voilà.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, mais c'est très vrai. Hein. Le mot qu'André vient de prononcer, celui de survie, c'est ça, c'est une suradaptation absolument nécessaire, donc une suradaptation à l'autre, à l'interlocuteur, et ça a été décrit et raconté de nombreuses fois, en particulier par les gens qui ont été déportés et par les survivants du massacre des Arméniens. Et il faut, pour arriver à survivre, arriver à capter ce que l'autre, et même à anticiper ce que l'autre risque de dire ou risque de faire, s'adapter et arriver à avoir une réponse qui soit une réponse qui provoque en effet chez l'autre, non pas le refus, l'envie de tuer, etc., mais au contraire, une protection, quelle qu'elle soit. Et il y a beaucoup de survivants qui ont dû en effet leur survie grâce à ça, grâce à une capacité, une intelligence émotionnelle particulière.
Oui, alors je vais peut-être un tout petit peu alléger le...
Oui, c'est bien, parce que
1er janvier,
c'est la fête quand même.
Mais moi, enfin, on a tous vu André en tant que juré de Nouvelle Star, etc. Mais ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il avait toujours une manière, même si en creux, il disait à la personne concernée, écoute chérie, tu continueras à chanter dans ta salle de bain, mais sûrement pas sur une scène. Mais il y avait toujours une manière de trouver la qualité qui était en face. Une curiosité folle qui faisait qu'il y avait toujours, en fait, de trouver le meilleur dans la personne qui passait devant vous. Et ça aussi, c'est quelque chose de beau, quoi. Quand on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui va quand même, bah, voir, en fait, le verre à moitié plein, au lieu de voir le verre à moitié vide. En ce moment de réveillon, de post-réveillon,
je pense que
la métaphore s'impose. Mais c'est vrai, il y a quelque chose dans son regard dont on se dit, il va trouver chez nous quelque chose de chouette.
Ben oui, parce qu'on a tous été musiciens, nous, parfois, quand on finissait ces fameuses, voilà, cette époque où j'étais jury, et souvent je voyais Marianne James ou après elle, Lio, à la fin de la journée, qui s'effondrait en pleurs, parce que Il y a un moment où on dit mais qui on est pour juger de ces gosses? Il y a presque des avenirs qui se jouent. Moi simplement, comme ils avaient fait la queue pendant des heures, parfois voilà, ils étaient pas prêts, mais on allait chercher au fond qu'est-ce qu'il y avait de bien pour qu'ils puissent continuer leur chemin de musicien. On est paumé quand on est chanteur, quand on habite en province, quand vos copains ils vous disent ou vos parents c'est pas mal, tu devrais essayer. Comment on évalue la musique? Et du coup, ce qui m'a intéressé aussi dans tout ça, et c'est aussi pour ça que c'est comme ça que j'ai fini chroniqueur à France Inter, c'est de décrypter ces émotions. Et ça, c'est super intéressant. Mmh. Normalement, la musique, ça vous provoque des émotions. Donc, ça passe pas par la tête. Deleuze disait, ça provoque de l'affect. Hein. Mmh. Ça veut dire une transformation physique du corps. Moi, c'est transpiration de la moustache quand c'est bien. Voilà, je sais pas pourquoi, mais si.
Il a aussi inventé énormément d'expressions. Ouais. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime.
Et donc, voilà, le gars ou la fille est en face de vous et tout d'un coup, vous sortez, voilà, vous le débriefez et il est content parce qu'il a été évalué.
Et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle décryptée et popularisée par le psychologue Daniel Goleman, mais on y reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur la page Facebook de Grand Bain Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Dimitri Hénault m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson qui rend heureux, d'après certains neuroscientifiques. On en parle dans quelques instants. Encore une fois, belle année à l'écoute de France Inter. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Don't stop me now.
Grand bien vous fasse.
On n'est pas bien.
Si.
Paisible. À la fraîche.
À l'irébéi.
On est bien, hein. Ouais, mais c'est bien d'être bien.
sur France Inter.
Et vous alliez ajouter, guillemets,
décontracté du gland. Pourquoi voilà. Vous l'avez pas mis?
C'est exactement ce que j'allais dire. Petit joueur, bah.
Le bonheur.
1er janvier, bravo.
Le bonheur, selon André Manoukian, pour bien commencer l'année avec nos trois camarades, Thibaut de Saint-Maurice, Christina Pelédouel et Guillemette Odissino. Alors, André Manoukian, selon le chercheur en neurosciences cognitives, le docteur Jacob Jolige, il existerait une formule censée évaluer la capacité d'une chanson à nous rendre heureux. Ces chansons qui rendent heureux sont calculées à partir de certains critères objectifs. Le tempo, avec un minimum de 150 battements par minute, le contenu positif des paroles et l'utilisation d'une tonalité majeure. Et c'est donc la chanson qu'on vient d'entendre qui est la plus susceptible de nous rendre heureux, Don't Stop Me Now de Queen.
Alors, le sondage est anglo-saxon. Donc
c'est
déjà,
une recherche.
Voilà, c'est une recherche. Le tempo entre 120 et 150, on dit souvent 120. 120 parce que ça correspond au battement moyen d'un cœur. Donc d'un coup, ça veut dire qu'on reconnaît son propre corps, qu'on est dans un rythme qui nous va, qui est un rythme naturel et vivant. La tonalité majeure...
C'est quoi?
Effectivement, alors c'est... Ok, ça c'est la gamme majeure, on la connaît tous. Maintenant, voilà la gamme mineure. Vous avez vu la différence? C'est juste une petite note, la tierce, qui est diminuée d'un demi-ton. Mais du coup, ça change tout. Là, je joue une mélodie gaie. Je vais jouer la même mélodie en mineur. Vous avez vu?
Oh, oui.
Mais Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait ça. Un arpège mineur. Si elle était restée avec lui, la meuf, il aurait fait ça. C'est naze, on est d'accord. Donc, c'est pas la peine d'être gay tout le temps, forcément, en musique.
Mais la musique triste.
Moi, perso, je préfère quand c'est triste, exactement.
Aussi,
Et alors, les orientaux, ils font le, c'est comble de tout, ils mélangent majeur et mineur. Ça fait du mijeur. C'est-à-dire, là, je vais jusqu'au mi, c'est la tierce majeure, mais au lieu de passer par le ré, je passe par la tierce, par la seconde diminuée. Et je suis majeur et mi, je suis gay et triste en même temps. Vous voyez le truc? C'est pour ça que le serpent, il sait pas où il en est.
Alors, en deuxième position, André Manoukian, bah, il y a ça.
Ah ouais.
Dancing Queen d'Abba, selon donc les recherches de ce fameux chercheur en neurosciences cognitives. Et en troisième position...
I love the colorful. C'est les Beach Boys.
Ben oui,
c'est trop bien ça.
Good Vibration. Bonjour Emmanuel Bigan. Bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes directeur du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à l'université de Bourgogne. Quand nous écoutons Queen, Abba, Bach ou Mozart, eh bien ces mélodies, ces chansons ont le pouvoir de nous rendre heureux. Pourquoi?
Oui, la musique a le pouvoir de changer vos états psychologiques pour des tas de raisons, et pas pour des raisons aussi peut-être simples, voire simplistes que celles qui ont été présentées à l'instant par ce chercheur, qui n'est pas chercheur en neurosciences, en fait, qui est un informaticien qui est dans un laboratoire de neurosciences. Ça formalise des effets très simples, mais la musique est beaucoup plus subtile pour vous modifier vos états et vos émotions, et ça, on le sait très bien, c'est bien établi, elle change complètement la neurochimie de votre cerveau, donc ça peut faire beaucoup d'effets.
Quel est le processus cérébral de ce bonheur que nous éprouvons quand nous écoutons de la musique ?
Alors il y a plusieurs dimensions, il ne faut pas imaginer qu'on puisse changer nos états aussi facilement que ça. La musique a des caractéristiques auditives, le rythme, la mélodie, l'harmonie, on vient d'en parler, qui jouent, mais il y a aussi un phénomène d'attente. Quand la musique vous met en attente de quelque chose, elle vous met dans une situation où vous espérez que telle et telle chose se produise. Et si ça se produit, même si ça se produit un peu différemment, vous avez en général des réactions de plaisir. Et ça a été montré par des collègues à Montréal qui ont vu que les zones du plaisir s'activent. Ces zones du plaisir, elles produisent de la dopamine, et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui fait partie des réactions plaisantes et de bonheur.
Et oui, la joie de vivre est avant tout une expérience physique et corporelle, et évidemment, cette joie de vivre peut conduire à une extase métaphysique.
Elle peut conduire à une extase métaphysique, ça fait aussi partie des réactions de bonheur. Les extases métaphysiques, la musique peut les produire aussi.
André Manoukian.
Oui, alors moi je suis persuadé qu'on va aller même plus loin que ça. À l'intérieur de notre corps, tout vibre. On est d'accord. Mmh. On a des petites cellules, tout ça. Il y a un mathématicien qui s'est mis à calculer, là, par exemple, la fréquence des protéines et à les ramener dans ce que peut entendre une oreille humaine. Et bon, il va un peu loin. Il a trouvé, soi-disant, les notes des protéines. Mais si c'est moi, ce que j'aime, c'est cette démarche-là. En tout cas, tout vibre à l'intérieur de nous. Tout d'un coup, quand on vous envoie un son, encore une fois, tout à l'heure, Deleuze disait, voilà, la musique, ça crée des affects. Ça veut dire des transformations dans notre corps. On écoute la musique avec le ventre avant de l'écouter avec la tête. Quand on a des émotions musicales, je le sais d'expérience, quand j'étais juré, puis qu'il y avait tout d'un coup une voix qui était sublime, mais on restait tous les quatre, les grandes gueules, là, mais sans voix. L'expression rester sans voix, c'est vous êtes saisi, vous ouvrez la bouche, vous ne vous appartenez pas. Et c'est Jean Kelevitch qui en parle le mieux dans La musique, elle est ineffable. Il dit que quand on écoute de la musique, on n'est plus qu'un tuyau qui vibre sous les coups de l'archet du violoniste. Donc la tête est proscrite. Et finalement, quand le mental s'en va, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Et d'où l'expression con comme un ténor aussi, parce qu'il faut avoir la tête vide pour chanter.
Guillemette Odissino.
Bah, ça touche notre corde sensible, puisqu'on est, nous ne sommes que vibrations. Mais moi, je reviens à cette notion tout à l'heure que la musique, c'est aussi une attente. Enfin, il y avait pratiquement, cher Ali, vous êtes allé vers l'extase métaphysique, ce qui ne m'étonne pas, mais il y avait quelque chose dans ce que vous disiez, monsieur, c'est quelque chose aussi de l'orgasme. Et moi, je connais plein de gens, j'en fais partie, mais j'ai plein d'amis qui aiment la musique qui est en crescendo. C'est-à-dire cette musique qui, à un moment, se développe, qui monte, qui provoque une attente et aussi une satisfaction. Et je connais plein de gens.
Le boléro de Ravel, par exemple. Le boléro de Ravel.
Oui, et je fais partie de ces gens aussi qui détestent quand une musique vous promet un orgasme, ou vous promet un crescendo et que ça ne vient jamais. C'est insupportable.
La musique allumeuse.
C'est insupportable. La musique qui reste molle, là, constamment, c'est horrible.
Emmanuel Bigand, sur l'orgasme musical, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, tiens, à ce sujet?
Ben, c'est exactement ça, en fait. La syntaxe du plaisir musical, elle suit la syntaxe du plaisir avec deux grandes phases. Une phase d'anticipation dans laquelle le système limbique, c'est un noyau qui s'appelle le striatum, qui décharge des influx parce qu'il se rend compte qu'il va se passer quelque chose. Et par exemple, si vous prenez une forme comme le rock progressif, mais on aurait des tas d'exemples dans le jazz ou dans la musique classique, les musiciens créent une tension, on sait bien qu'il va se passer quelque chose et on commence à anticiper quand. On a déjà là le plaisir de l'attente et ensuite il y a le plaisir, ce qu'on appelle la consommation, où l'événement climax musical arrive et à ce moment-là le noyau accumbens s'active et c'est très clair dans les études neuroscientifiques, produit de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui rentre dans le circuit du plaisir. C'est exactement le même neurotransmetteur que dans les situations d'orgasme.
Exactement, j'aime beaucoup ce qu'il dit le docteur. Voilà, les Allemands appellent par exemple les notes de l'accord parfait, do mi sol do, les notes du repos. Et puis ensuite, les autres, si, ré, fa, la, ils appellent ça les notes de l'attention. Vous avez vu comme c'est tendu, et tout d'un coup, je résous sur le repos. Vous avez vu cette sensation? Bach avait besoin qu'on lui joue du clavecin avant de s'endormir, et un jour que c'est son gamin qui s'y colle et qui est... Et puis tout d'un coup, il entend... Son père ronflait, il se lève et se barre sur cet accord. L'autre, ça l'a réveillé, il est obligé d'aller sur le clavecin, de faire cet accord-là, de le résoudre et d'aller se rendormir. C'est carrément physique, cette histoire de tension, de résolution.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et puis, il y a un plaisir de la musique aussi, qui est le plaisir par contraste avec les autres sons qui sortent de notre bouche et qui sont, en fait, les paroles qu'on tient. Et, en fait, pour se faire comprendre et communiquer, on est obligé de structurer en permanence. Alors, grâce à la grammaire, grâce à la pensée, il faut articuler nos pensées. On passe notre temps à dire à nos élèves en disant, voilà, il faut développer une argumentation, il faut que ce soit clair, rigoureux, etc. Et, en fait, toute cette construction grammaticale, logique, pour citer Nietzsche, finalement, eh bien, en fait, elle nous emprisonne aussi, elle nous encage. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, et parce que moi, je suis pas du tout musicien, donc je comprends rien à la musique.
Bienvenue au club.
Voilà, les histoires de notes, de solfège, tout ça, je comprends rien. Mais en revanche, on peut ressentir les effets malgré tout. Et c'est, j'aime bien l'expression de dire tout vibre à l'intérieur de nous, parce que c'est un truc de Nietzsche, ça, c'est ce que Nietzsche appelle la mélodie originelle de nos affects, à l'intérieur même de notre corps. Et justement, la musique, elle fait ça. En fait, elle nous libère de la grammaire, elle nous libère de la logique aussi, et elle nous montre qu'on peut communiquer à travers des affects avant de communiquer à travers des mots.
Sauf que le musicien, il est obligé de connaître sa grammaire.
Le musicien, lui, mais l'auditeur, le plaisir de l'écoute. Voilà, le plaisir de l'écoute.
Emmanuel Bigand, si la musique détient ce pouvoir de nous rendre heureux, même quand nous écoutons des musiques tristes, c'est parce que c'est un puissant liant social.
Oui, il y a aussi ça, bien sûr. Dans ce système d'attente et de suspense, l'autre attend quelque chose. Donc la musique est liée à la communication. Et d'une certaine façon, on communique encore avec Mozart par l'intermédiaire de ses attentes. Il savait très bien comment notre cerveau était fait et les attentes qu'il produit sont encore des attentes qui fonctionnent aujourd'hui pour nous. Donc la musique et la cohésion sociale, c'est très lié aussi pour cette raison-là.
Chrissy Lapelle-Edouane.
Oui, moi je voudrais dire un mot de la musique, du lien entre la musique et l'inconscient. C'est une évidence, la musique touche directement des points dont nous n'avons pas forcément conscience et provoque des réactions d'affect extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Je vous donne un exemple, William Styron explique ça magnifiquement bien dans un de ses livres, où il décrit la manière dont la simple audition d'une mélodie, je crois que c'est Mendelssohn, je n'en suis pas certaine, provoque chez lui le moment où il va basculer, il va enfin pouvoir remonter de la dépression vers la guérison. Et c'est extraordinaire, et c'est parce que cette mélodie lui était chantée quand il était tout petit par sa mère. Et ça a provoqué un choc, l'audition de cette mélodie qu'il avait oubliée complètement, qui lui a permis de reprendre pied et de repasser du côté de l'existence. Ça, c'est quand même un exemple extraordinaire du pouvoir de la musique.
Oui, bah justement, parce que il est bien marrant là l'informaticien là qui dit voilà les 10 chansons qui vont vous rendre heureux. Mais le problème c'est que ça se résout pas comme ça parce que comme tu viens de le dire, Christina, il y a aussi un énorme potentiel de Madeleine de Proust. Mm. Je veux dire, si on s'est séparé sur la chanson de Queen là, qui est classée première, comment dire que bon, en revanche, on peut être tombé amoureux sur une chanson d'une tristesse absolue et que cette chanson nous redonne à chaque fois le même bonheur.
Merci beaucoup Emmanuel Bigan, on peut lire avec grand profit le livre que vous avez dirigé, Les bienfaits de la musique sur le cerveau. Alors André Manoukian, nous évoquons la joie de vivre provoquée par l'écoute de la musique. Quand on vous parle de joie, vous pensez bien sûr à Spinoza.
Oui.
Spinoza, né à Amsterdam en 1632.
Voilà.
Mort à La Haye en 1677.
Seul contre tous, mais tout d'un coup, qui a cet éclair le mec, il est seul, hein. Il est dans le ghetto, c'est-à-dire d'Amsterdam, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, les rares auditeurs de France Inter qui ne savent pas. Et à l'intérieur même de sa communauté juive, il est excommunié. Donc le gars, c'est le ghetto du ghetto du ghetto, quoi. Et au milieu de ce truc-là, il préfère polir des vers plutôt que d'aller, on lui propose des postes, mais il les refuse parce qu'il serait obligé d'asservir sa pensée. Et tout d'un coup, il a cette fulgurance, il appelle ça la substance. En fait, ce qui nous, on serait tous réunis dans une substance, c'est la vie, quoi, qui aurait des attributs différents. Moi, un chien, Guillemette, je veux dire vous.
Merci.
Et tout d'un coup, quand j'ai lu cette phrase-là, alors j'étais au bord d'une plage du Pacifique et je lisais une ligne, et tout d'un coup, je méditais pendant 3 heures, et tout d'un coup, j'ai senti cette appartenance à cette substance qui nous relie tous. Et quand on en arrive là, et puis je pense qu'on est très près de la définition du bonheur, ouais.
Thibaut de Saint-Maurice, un point bac philo sur le concept sur le concept de joie chez Spinoza.
Ouais, juste être capable de lire Spinoza avec une version comme ça un peu méditative face à l'océan Pacifique quand on voit comment c'est rédigé les textes, hein, c'est-à-dire comme un traité de mathématiques avec des propositions et des démonstrations, c'est pas mal, c'est fort. Ce qui est fascinant dans cette description de cette pensée que fait Spinoza de la joie, c'est que effectivement la joie n'est pas liée au fait de rire, de sourire ou de n'est pas liée à un plaisir qui serait à consommer dont on pourrait se débarrasser rapidement. En fait, c'est une joie qui est profondément enracinée dans ce que Spinoza appelle l'affirmation de l'être, et donc l'augmentation de ce que Spinoza appelle aussi la puissance d'exister. Et donc, par exemple, je peux être très joyeux en faisant un effort, par exemple en faisant du sport, je peux être très joyeux parce que je sens comme ça une puissance d'exister. Je peux être très joyeux en apprenant quelque chose parce que je sens aussi l'affirmation d'une idée qui va devenir de plus en plus, comme dit Spinoza, adéquate. Et puis, en fait, la joie qui est ressentie, c'est un être qui s'affirme et qui devient de plus en plus parfait. Et la perfection, elle peut se sentir, mais elle peut aussi se comprendre. Et donc, ce qui est super, c'est que la joie, elle est totale. C'est-à-dire, c'est à la fois une joie de mon corps, par exemple, qui s'affirme, et en même temps, une joie de mon esprit qui parvient à une compréhension de plus en plus adéquate du monde. Pour terminer, Spinoza, ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre.
Et pour Spinoza, ce sont les émotions qui guident nos vies. Pour lui, notre intelligence ne fonctionne bien qu'en harmonie avec nos émotions. Christilla Peledwell, c'est un peu le précurseur de l'intelligence émotionnelle popularisée par le psychologue américain Daniel Goleman.
Oui,
et cher à André Manoukian, oui, cette intelligence émotionnelle.
Popularisé, Spinoza était quand même un cran au-dessus, on va dire. mais Daniel Goleman, il a réfléchi à cette question-là, de savoir si notre intelligence n'était en réalité que l'intellect. Et la réponse, bien entendu, on le sait, on le perçoit tous, mais il l'a réfléchi, c'est bien entendu non, et c'est aussi notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité d'être nous-mêmes, notre capacité de réagir, d'interagir avec le monde et avec les autres. Je fais ça à grands traits, je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas d'ailleurs une spécialiste, mais je connais un petit peu la chose. Et c'est cette capacité très particulière qui nous permet de nous sentir, donc d'accéder au bonheur, en lien avec le monde extérieur et avec les autres, et en relation. Et ça peut se développer. C'est-à-dire que ça peut s'évaluer, puisqu'il y a non seulement des tests de QI, mais aussi des tests de QE. Ça, je suis un peu moins persuadée, peut-être. Mais en tout cas, ça se travaille.
En tout cas, vous dites la même chose tous les deux.
C'est vrai.
Ça veut dire que c'est un mouvement qui part de moi et qui va vers les
l'extérieur.
Autres. Je sors de mon...
Le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand.
Ouais, mais je me répands.
Il y a
quoi.
Une communauté.
La substance coule, disons.
C'est ça.
Hein, comme le camembert. Non, mais c'est se sentir, je vulgarise, mais souvent, il y a des gens qui vous disent oh, « là, je me suis senti vivant ». Il y a quelque chose de ça, c'est se sentir ici, maintenant, vraiment en osmose ou en contact avec les autres. Et alors, pour le coup, la musique, et je vais plus loin, la danse, je veux dire, danser, faire exulter son corps sur une musique qu'on aime, c'est vraiment se sentir... particulièrement vivant ici et maintenant, quoi.
André Manoukian, et Nietzsche dans tout ça?
Ah, Nietzsche.
Pourquoi êtes-vous un adepte de ces aphorismes?
Parce que comme lui, j'aime beaucoup la randonnée. Hein, dans la famille, on aime la randonnée depuis que je suis tout petit. Mais c'est parce que ma grand-mère a fait 1500 kilomètres à pied du nord de la Turquie jusqu'au désert de Syrie. Non, je plaisante avec ça, mais marcher, ça, c'est les valeurs que m'ont appris mon père. Voilà, la montagne, la philosophie et la musique. L'amour de ça, lui, il était autodidacte et moi aussi. Mais Nietzsche, ce qui est fabuleux, c'est que c'est à la base, il veut faire de la musique, le gars. Et quand il commence, ça brouille avec Wagner, va venir, parce que Wagner, franchement, c'est un champion. Hein. Wagner, on en a une image un peu faussée comme ça dans l'inconscient collectif. On pense que dès qu'on entend Wagner, on a envie d'envahir la Pologne un petit peu. C'est grâce à Woody Allen, c'est ça. Mais en fait, Wagner, il pète toutes les règles. C'est-à-dire les règles de la cadence. Tout à l'heure, je vous ai joué la cadence de Bach. Voilà. Et ben lui, il va jamais conclure. Ça, c'est les accords de Tristan. Voilà. Au lieu de conclure, vous rendez compte? Tension,
ah, suspension,
tension, suspension. Et jamais il résout tout ça parce qu'il n'arrivait pas à se faire la femme de son sponsor. Mais revenons à Nietzsche. Nietzsche, il admire Wagner parce que Wagner, il dynamite les règles. Et lui, il n'a qu'une envie. Il sent que le vrai pouvoir, il est là. Plus que peut-être dans la philosophie. Et un jour, il envoie à Wagner un truc qu'il a composé et Wagner va jamais lui répondre et ça va être la mortification.
Thibaut de Saint-Maurice, est-ce que André Manoukian est un enfant au sens nietzschéen?
Alors oui. Pour la philosophie, la montagne et la musique, en revanche, il y a quand même un gros problème, hein, un gros cas de rupture avec Nietzsche, hein, c'est l'amour des femmes. C'est-à-dire que Nietzsche est quand même une sorte de gros misogyne, pour le dire très vite. Alors, ça c'est un peu un raccourci.
Était timide, moi je dis qu'il était timide, ouais, qu'il n'osait pas se déclarer.
Non, en fait c'est l'image surtout qui lui colle à la peau. En fait, ce que Nietzsche n'aime pas, c'est ce qu'est devenu la femme dans cette société bourgeoise de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire réduite en fait à un ensemble d'étiquettes et de domination de ses envies, de ses désirs, etc. Et donc au fond, il ne faut pas se laisser porter par cette étiquette misogyne de Nietzsche. Il y a aussi une capacité à aimer les femmes.
Et si vous répondiez à ma question?
Et en répondant à votre question, c'est très compliqué, Nietzsche, ça part dans tous les sens, mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que, et Nietzsche le rappelle souvent, il dit, il faut commencer, il faut tout rebâtir dans la philosophie en suivant le fil conducteur du corps. Il faut partir de cette vibration dont André parlait tout à l'heure, dès le début de l'émission, du fait que le corps corps vibre. Et en ça, c'est peut-être voilà, je connais pas tout de la vie d'André Manoukian,
mais sur cette figure de l'enfant.
Ah ben oui, aussi sur cette figure de l'enfant. L'enfant, c'est aussi celui chez Nietzsche qui est capable justement de voir le monde sans les lunettes des valeurs des adultes et des valeurs bourgeoises et des valeurs en fait construites par les faibles qui ne peuvent survivre dans le monde que par des valeurs, etc. L'enfant, c'est celui qui est capable de voir les choses vibrer, qui est capable aussi d'assumer un ensemble de pulsions, d'envies. Et par exemple, sur le côté multicasquette, c'est-à-dire d'être à la fois voilà musicien, juré, chroniqueur, compositeur, voilà. Et ben en fait, c'est une capacité aussi, comme les enfants, à expérimenter tout ce qui les porte au plaisir de vivre.
Moi, je suis comme André Manoukian, j'aime beaucoup Nietzsche, mais parce que ça remonte à l'adolescence, il faut rappeler en fait, enfin, que Nietzsche, c'est vraiment le philosophe qui plaît. De génération en génération, qui plaît aux jeunes. C'est vraiment le penseur qui, à un moment, justement parce qu'il pense différemment, parce qu'il y a cette notion d'enfance et de regarder le monde différemment, qui plaît, mais fondamentalement, aux jeunes lecteurs. Ouvrir un livre qui s'appelle Le Gai Savoir, alors qu'on s'est emmerdé sur d'autres philosophes, il y a quelque chose qui fait tomber dans la philosophie, en fait, grâce à Nietzsche.
Et puis il faut rappeler que Nietzsche le rappelle dans beaucoup de ses ouvrages, mais il faut accepter l'existence de la souffrance comme étape naturelle vers le bonheur. Christine Lapelle-Edouelle.
Juste d'un mot, n'oublions pas que Nietzsche, ce sont des aphorismes et il y a une dimension poétique extrêmement importante, et la dimension poétique est en lien direct avec la musique. Il y a un rapport extrêmement étroit entre la poésie et la musique.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici bas avec moi, pour te maintenir intact en état? Sourire. Je veux balayer d'un soupir.
soleil va rougir dans le jour naissant.
Magenta interprété assez.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Le bonheur selon André Manoukian pour bien commencer l'année. Tiens d'ailleurs, est-ce que la question du bonheur a du sens pour vous ?
Pas vraiment.
Merci d'être venu.
Non, je
sais. C'est juste le concept de l'émission.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est le bonheur. Si, j'ai encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir le père que j'avais, la mère que j'avais, c'est-à-dire un père qui aimait la nature, qui se levait tous les matins en nous disant regardez, il faut saluer le soleil, il faut lui dire merci et tout ça. Puis à côté, une mère qui disait mais tu vois pas que tu casses les couilles aux enfants avec tes bêtises et tout, et qui nous embrassait en nous disant vous êtes les trésors de ma vie, etc. Donc c'est sûr que cet environnement est plutôt cool, ça aide. Après, ma propre définition du bonheur, elle se retrouve derrière mon piano tous les jours. Tout d'un coup, j'ai réussi à faire un trait de Billy Evans ou de Brad Meldo. Je fais waouh, celui-là, je l'ai bossé pendant des heures et ça y est, il me coule sous les doigts. Ça, c'est le bonheur, mais c'est le bonheur du musicien après la souffrance. Et maintenant que vous me parlez de tout ça et que je vous parle de montagne, la montagne, c'est pareil. C'est d'abord de la souffrance, c'est marcher péniblement avant d'arriver au sommet. Et puis, donc, il y a un apprentissage du bonheur, moi, je dirais.
Que serait votre vie loin de la montagne, loin de Chamonix ?
Loin de Chamonix, ça manquerait d'oxygène et de beauté, quoi. C'est impossible. Le pire, c'est quand je me balade avec mes enfants qui ont été élevés à Chamonix dans Paris, je les vois lever la tête, chercher le ciel, et comme s'ils cherchaient de l'air pour respirer, là, je fais, ah ouais, d'accord, ok.
Je cite Nietzsche, une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint, deux créatures à peu près semblables, la fatigue est le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraternité, et durant le sommeil s'ajoute la liberté.
Waouh, Fred, t'es mon mec.
et vous êtes
Fred,
quel,
my man.
Vous êtes quel type de randonneur ? Solitaire, en groupe, en silence, en musique ?
Non, pas jamais solitaire. Faut partager ça. Quoique c'est cool aussi quand on est tout seul, mais ça c'est quand on a traversé une épreuve, on a besoin de faire un trek pendant 4-5 jours. Ça m'est pas encore arrivé, ça peut m'arriver dans pas longtemps. C'est tellement plus chouette de partager ça. Moi, ça a toujours été un partage en famille. Aujourd'hui, c'est avec ma meuf, c'est avec mes gosses et c'est assez génial.
Guillemette Odissino.
Moi, je peux revenir sur les parents d'André. Oui. Je trouve ça très beau qu'ils disent ça, que le bonheur est un apprentissage, mais finalement aussi, on est éduqué au bonheur. Quand vous parliez de votre maman, c'était ça. Je crois que ça, on avait à peu près la même, hein, qui disait qu'elle nous aimait, que le monde était beau, qu'il fallait le voir de cette manière, etc. Je pense qu'en fait, c'est beau aussi d'être élevé au bonheur.
Tiens, je vous propose d'écouter le philosophe Gilles Deleuze, cher à votre cœur, André Manoukian. On écoute un cours à Vincennes en 1980.
L'intuition intellectuelle, ce que Spinoza présentera comme l'intuition du troisième genre de connaissance, c'est bien une espèce de pensée comme éclair. C'est bien une pensée à vitesse absolue, c'est-à-dire qui va à la fois le plus profond et qui embrasse, qui a une amplitude maximum, et qui procède comme en un éclair.
André Manoukian.
C'est fulgurant.
C'est un éclair.
Ouais, ouais, c'est tellement beau, c'est presque palpable, c'est physique. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce mec-là. Je l'ai découvert à la télévision dans l'abécédaire de Claire Parnet, que je remercie tous les jours d'avoir eu cette idée sublime. Lui qui refusait tout entretien à la télévision en disant la télé, ça n'est pas un objet de culture, ça n'est pas un objet de cinéma, ça n'est pas un objet de théâtre. La télé, c'est, ça fait des trucs de télé. Donc ce que je regarde à la télé, moi, c'est Tourner Manège, qui est un programme pur de télévision. Évidemment, il plaisantait avec ça, mais quand il parle, c'est tellement magnifique. Alors par contre, quand il écrit, faut s'accrocher. Et il le disait lui-même, qu'il faisait exprès de concentrer un petit peu ses phrases comme ça.
Thibaut de Saint-Maurice.
Ce qui est rigolo, c'est que Deleuze est le créateur de ce concept de pop philosophie. Philosophie donc qui devait faire pop, disait-il, comme en fait avec autant d'intensité qu'un morceau de rock ou avec qu'une image de pop culture ou de pop art. Et que aujourd'hui, ce qu'on appelle la pop philosophie réfléchit notamment beaucoup les œuvres de la télévision. Donc voilà, petite ironie. Ce qui est fascinant chez Deleuze, c'est aussi la liberté de penser qu'il incarne dans une époque qui est extrêmement régie par des pensées un peu idéologiques et très de clans de chapelle, etc. Et lui-même incarne une capacité à dire on peut penser en dehors des idéologies et retrouver, alors oui, les éclairs de Spinoza, mais aussi nos propres désirs, nos corps comme machines désirantes, par exemple, dans l'anti-Oedipe. Et ça, c'est aussi un geste très, très libérateur.
Quel lien établissez-vous entre la pensée éclair de Spinoza et l'improvisation du jazz ?
C'est la même chose, magnifique. C'est-à-dire, c'est même qu'on doit anticiper, c'est pas qu'on doit avoir une pensée éclair, c'est qu'on est en train d'anticiper sans arrêt par rapport à un accord, quoi. Là, j'ai passé sur trois gammes différentes, super rapidement. Donc, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, quand je dis que le bonheur, c'est un apprentissage, mais la pensée éclair, c'est un apprentissage aussi. Il faut s'exercer à ça. L'improvisation, c'est la liberté totale du musicien, mais qui s'acquiert après des heures de gamme et de planter du bâton et de piquer, quoi, et pour avoir la liberté du rider.
Je trouve qu'on n'improvise pas assez dans nos vies.
Alors moi, je fais que ça. Et parfois, on me le reproche. Et voilà, mais vous avez peut-être raison, Ali. Peut-être que je devrais, moi, peut-être moins improviser. Mais pétard, non. Pour moi, je le prends pas pour moi, ça, Ali.
Qu'est-ce qu'il appelle les douelles ?
D'improviser davantage, ça serait une bonne idée, oui. Je pense que c'est un moyen d'acquérir de la liberté. Je pense que la liberté, le fait de pouvoir saisir les choses qui passent, c'est une des clés du bonheur, de l'épanouissement.
Bah, et justement, du coup, c'est comme Deleuze, c'est-à-dire c'est sortir de ses propres dogmes. Lui, il sortait des dogmes en général, mais c'est tellement agréable de sortir de ses propres dogmes personnels, des dogmes de sa famille, des dogmes de son environnement, des dogmes de son patron. Enfin, et de suivre comme ça aussi des émotions éclairs, quoi. Donc, oui, l'improvisation, c'est merveilleux. Si notre vie pouvait être du jazz, éventuellement joué par André Manoukian.
Wow. J'aimerais qu'on revienne à Deleuze. André Manoukian, qui a joué un rôle peut-être dans votre histoire familiale, quand votre père a voulu vous préserver, en ne parlant pas du génocide arménien, ça a provoqué, vous le racontez, hein, des non-dits qui ont eu une conséquence, quand vous étiez adolescent, du malaise, la sensation d'être un peu mal à l'aise, hein, un peu partout, un peu nulle part à sa place. Pourquoi Deleuze a été important ?
Parce qu'il a inventé un concept qui s'appelle la déterritorialisation. C'est joli, comme il définissait son travail de philosophe en disant un philosophe, ça crée des concepts. On bricole des concepts. Et il disait avec Félix Guattari, on est super fiers de celui-ci. On a trouvé on a bricolé un petit truc pour essayer de piger le monde. La déterritorialisation, quand il en a parlé, je dis mais c'est moi. En fait, c'est quoi ? C'est un territoire ne vaut que lorsqu'il est quitté. Et du coup, ça raconte que l'histoire des exilés. Moi, mes grands-parents viennent de Turquie. C'est pas l'Arménie de maintenant qui est un tout petit pays du Caucase. Toute la diaspora arménienne exilée vient de... Et donc, ça veut dire que ce territoire-là, on nous le rendra jamais et on l'aura jamais. Et du coup, vu qu'on en est... vu qu'il n'existe plus, en nous, il grandit et il prend même parfois des proportions qui peuvent être embarrassantes, la déterritorialisation.
Christine Lapelle-Edouelle, sur le silence et les non-dits autour autour du génocide arménien dans la famille d'André Manoukian.
Oui, c'est ce que Anne Ancelin Schützenberger a théorisé. Elle a réfléchi à cette question-là, la question du non-dit, de la transmission des traumatismes et du silence.
Dans Aïe mes aïeux, notamment.
Dans Aïe mes aïeux, notamment. Elle a travaillé, c'est une psychologue qui a travaillé sur ces questions-là toute son existence et sur donc la psychogénéalogie. Et visiblement, dans votre histoire, ça pèse très lourd, cette histoire-là. Le silence et la transmission inconsciente de ce qui n'est pas prononcé, de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas raconté.
Sauf que moi, ça m'a préservé, et je le remercie mon père.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que ça m'a préservé de la haine contre les Turcs. Mmh. Et du coup, il nous a laissé faire, travailler, regarder l'histoire un peu par nous-mêmes. Quand vous traumatisez un gosse, quand vous lui dites comment votre grand-mère elle a été violée, coupée en morceaux, et jamais il nous a dit ça. Du coup, moi, je suis un peu préservé par rapport à ça, et je vais vous dire la vérité, un des plus beaux concert que j'ai fait, c'était à Istanbul, devant 1500 Turcs. C'était un concert de jazz en Ramadan, et puis je leur ai dit, et on m'a dit, est-ce que tu veux dire quelques mots en turc ? J'ai dit, ouais, je vais leur dire que je suis fier d'être sur la terre de mes grands-parents. Et ben, 1500 Turcs se sont levés pour applaudir ça. Ils étaient tellement fiers que je revendique leur terre comme étant celle de mes grands-parents, et ça, c'est grâce à mon père. Raconter, c'est bien, mais c'est le devoir de mémoire, c'est aussi un truc qui peut perpétrer des haines pendant des générations.
C'est vrai, et probablement que votre père était passé au stade suivant, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas transmis la haine, mais il vous a transmis une forme de pardon.
Ouais. C'est en tout cas de préserver et d'humanité. Je crois que c'est pour ça que lui s'est mis au piano, c'est pour ça que je fais du piano. C'était pour entendre une autre musique que la musique des atrocités qu'il entendait quand il était môme, parce que lui, quand il était môme, tout le monde racontait autour de lui. Et c'est pour ça que la philosophie, pour lui, c'était une manière de revenir à l'humanisme, et puis la montagne, une manière de se barrer, parce que quand vous êtes poursuivi, vous êtes entraîné comme ça.
André Manoukian, vous aurez 63 ans cette année.
Ah, merde.
Vous semblez avoir pactisé avec le diable. En paraissant 10 ans de moins. Quel rapport entretenez-vous avec le corps qui vieillit, la mort qui se profile ?
Ah, alors moi je vois la mort comme un sommeil dans lequel le réveil ne va pas vous faire chier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est génial. C'est une grâce matinée illimitée. Donc voilà, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Quant au corps, on essaye de l'entretenir. À Chamonix, on fait des randos, on fait du ski, on prend les gosses et puis on se bouge les fesses, quoi.
Et l'amour dans tout ça?
Mais il n'y a que ça.
Quelle est votre philosophie de l'amour?
Ma philosophie de l'amour, c'est ce qui m'anime, c'est mon carburant. Moi, je crois à la muse, je crois à la chanteuse dont on tombe amoureux. Et en échange de cet amour qu'on lui envoie, il nous vient des œuvres. Là aussi, c'est Deleuze qui dit l'amour, c'est un travail, c'est une production, c'est aussi un voyage dans des terres qu'on ne connaît pas. Et je suis très curieux des terres que je ne connais pas. Si ma femme m'entend.
Comment vous l'abordez cette décennie 2020 avec effroi, avec espoir, avec curiosité?
Avec espoir, moi je suis un éternel optimiste avec de là d'où je viens et tout, évidemment. Et alors on voit le pire et le meilleur. Vous savez, il y a des gens qui disent sur le chemin de la spiritualité, plus vous allez haut et plus vous voyez, plus vous êtes attiré. Plus vous avez conscience des forces du mal. Je pense que, avec toutes les saloperies que balance Internet, malgré tout, c'est une affaire qui peut arriver à créer une conscience mondiale, et que tous nos problèmes viennent de là parce qu'il y a des adaptations ou pas. L'intelligence artificielle, je pense qu'elle va nous délivrer des tâches débiles, mais en même temps il va falloir faire redoubler d'efforts d'éducation pour que ça soit à la portée de tout le monde, qu'on n'aille pas vers un monde low-tech, high-tech. Et puis mon père, avant de partir, disait, mais quand est-ce que ça va péter? Quand est-ce que les gens vont en avoir marre? Ben voilà, ça aussi c'est en train de se passer, donc on va plutôt vers quelque chose de meilleur, moi je trouve.
André Manoukian, dans 48 heures, une météorite détruit la Terre à coup sûr. Que faites-vous pendant ce temps?
Eh ben, je fais du piano, je joue, je m'entoure des gens que j'aime, j'essaye d'avoir cette notion de Spinoza, et je leur dis, c'est pas grave, les gars, on va être transformés en quelque chose d'autre, mais on fera toujours partie de la substance.
Quelques notes pour terminer?
Quelques notes pour terminer. Ça ça s'appelle All the Things You Are. Essayez entre eux. C'est Bach, hein, et pourtant c'est du jazz. Arrête parce que ça va durer.
Oh, c'est dingue, on a l'impression que c'est Bach, mais dans un piano bar, hein, c'est génial.
Merci beaucoup, André Manoukian, d'avoir été notre premier invité de l'année 2020. Merci à nos camarades Guillemette Audicino, Thibaut de Saint-Maurice et Christina Pelédouel. Merci à Elisabeth Collet à la technique. Belle journée à tous à l'écoute de France Inter.
Et bonne année.